France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Momo Kodama. Je suis née le 6 mars 1972 à Osaka, Japon, et je suis pianiste.
Quand on pense à cette vie maintenant d'artiste et de concertiste que vous avez, Momo Kodama, on a évoqué évidemment le répertoire du piano solo, on a évoqué aussi l'apport de la musique de chambre, votre désir aussi de faire un jour des leaders, de la mélodie, d'accompagner la voix, d'accompagner le mot. Il y a le concerto, et qui dit concerto dit quand même chef d'orchestre. Et j'aurais aimé qu'on s'arrête un instant aussi sur ce dialogue entre le soliste et le chef. Est sorti tout récemment un enregistrement qui pourtant date d'il y a de nombreuses années avec Seiji Ozawa.
2006,
oui. Voilà. C'est un disque de 2006, enregistré en 2006, qui sort en 2021. Une belle histoire aussi que cet enregistrement, et l'interprétation que vous donnez de ce concerto de Mozart est toute particulière, avec notamment un rapport au temps très particulier, je trouve. On n'a pas peur du temps. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est aussi peut-être intrinsèque à vos cultures et à votre rencontre?
Oui, cette rencontre de Maître Ozawa, oui, c'était aussi une rencontre essentielle pour moi. Et je crois que nous, les artistes japonais, s'il n'y aurait pas Ozawa qui était le pionnier vraiment d'un musicien japonais qui est venu en Europe, et tous les musiciens, je pense qu'on ne serait tous pas là s'il n'y aurait pas lui qui a fait les premiers pas. Et donc, pour lui aussi, la France est un pays très, très important, parce que c'est le premier pays où il est venu. C'est une histoire très touchante, parce qu'il est venu avec un scooter, arrivé à Marseille en bateau après des mois de bateau. Et puis, de scooter, il a fait Marseille-Paris. Il dit qu'il connaît Paris comme un chauffeur de taxi. Il pouvait faire chauffeur de taxi. Il connaît toutes les petites rues, parce qu'il les a toutes faites avec le scooter. Après, il est parti aux États-Unis. Je pense qu'il a beaucoup souffert de beaucoup de choses. Le fait qu'il était un musicien japonais, il avait cette préjugement de dire que... Enfin, parce que le Japon était un peu lié aux machines, à toutes les machines qui s'inventaient, et qu'on disait que... Encore récemment, c'est vrai qu'on me disait les compliments que vous ne jouez pas comme une japonaise, vous n'êtes pas technique. Et pour moi, ce n'était pas du tout un compliment, parce que qu'est-ce que ça veut dire être... pas du tout comme japonaise. Je comprenais la chose qu'il voulait dire, donc je le prenais. Mais donc, de ce préjugement, je pense qu'il a dû souffrir, j'imagine. Donc, j'ai connu Maître Ozawa quand il était avec ses amis de Mito Chamber Orchestra, qui sont tous ses amis musiciens qu'il a rassemblés pour cet orchestre, prenant soin que tout le monde va bien, s'occupant des autres. Et puis, sur scène, où il n'y avait aucune concession, où ça devenait vraiment avec un sérieux, avec un respect immense pour le travail, pour la musique. Oui, dès qu'il arrivait sur scène, on était tous dans un autre état.
Thank you.
La création, ça c'est quelque chose de très important dans votre parcours et dans votre vie de musicienne, Momo Kodama.
Oui.
Ce rapport au compositeur, cette manière de participer à la naissance d'œuvres nouvelles. Vous êtes dédicataire de plusieurs pièces de différents compositeurs qui viennent à la fois du Japon, de l'Europe, de partout. Il y a les œuvres de Ozokawa qui sont très importantes, mais aussi tout proche de nous à France Musique, Rodolphe Bruno Boulmier, dont vous avez créé des pages. Je pense aussi à Jörg Widmann, enfin beaucoup de compositeurs qui sont vraiment au cœur de votre vie de musicienne et au cœur aussi de vos enregistrements, parce que vous êtes une artiste aujourd'hui du label ECM. On évoquait Manfred Eicher, qui évidemment a ce rôle très important en étant à la tête de ce label et qui va volontiers vers des programmes qui croisent l'hier et l'aujourd'hui. Aller vers de nouveaux langages, apprendre de nouvelles partitions, Momo Kodama, c'est un gros investissement de temps, de mémoire, avec des œuvres qu'on ne rejoue pas forcément toujours.
Justement, j'essaie de les rejouer beaucoup, parce que je trouve que c'est dommage de, quand il y a une création qu'on fait une fois et qui sont peut-être ou très peu jouées ou un peu mises de côté, peut-être on les retrouve après beaucoup, beaucoup d'années, mais c'est systématiquement quand j'ai la joie de créer une œuvre, j'essaie vraiment de moi de la programmer plusieurs fois, 4-5 fois au moins. J'en parle aussi à mes amis parce que je trouve que pour qu'ils découvrent aussi un peu la musique, peut-être qu'ils voudront aussi jouer ces œuvres et je ne sais pas. Ou s'il y a l'exclusivité, pas très longue normalement quand je crée une œuvre. Oui, la création, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une continuité vraiment naturelle de l'histoire de la musique. Et je trouve ça, au contraire, très intéressant. Qu'est-ce qu'ils veulent exprimer en ce moment? Parce que ça peut être tellement de choses différentes. Ça peut être retour aux origines. Ça peut être quelque chose qui va contre le temps, protestation contre le temps. Ça peut être quelque chose qui est en phase avec le temps qu'on vit. Enfin, c'est tellement de plusieurs façons d'exprimer aussi ce qui se passe dans le monde. Alors, très souvent, les compositeurs me connaissent déjà comment je joue. Et donc, ils composent pour moi. Et je ne sais pas, curieusement, c'est très souvent des choses très lentes. Alors, je dois donner une impression d'une personne, pas Formule 1. Mais ça m'arrive aussi de jouer deux fois quand c'est une œuvre solo, la pièce pour en bis, très souvent, je la rejoue parce que comme ça les auditeurs aussi sont contents de réécouter la pièce. Moi aussi, ça me permet bien sûr aussi de encore découvrir d'autres choses, mais aussi c'est très touchant comme le concerto de Hosokawa, c'est une œuvre que j'ai créée donc il y a 15 ans, c'était en 2006. Bien sûr, après, je l'ai joué un peu partout, dans la création japonaise avec Ozawa, ici en France avec François-Xavier Roth, et aux États-Unis, je l'ai fait avec mon beau-frère. Bref, j'ai eu la chance de jouer beaucoup, mais après, il y a d'autres pianistes qui le jouent maintenant aussi. Des fois, j'entends à la radio, j'entends un programme où le concerto est joué. Je trouve ça très touchant parce que ça devient un concerto du répertoire. Oui, je pense que je pourrais pas penser ma vie sans la création. Hosokawa était très proche de Takemitsu, c'était son grand maître. Mais lui, il voulait tout de suite trouver son monde, son langage qui était lié très profondément à la culture japonaise. Mais en même temps, il voulait un peu dépoussiérer parce qu'il pense que il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être un peu... pas changer radicalement pour faire des choses nouvelles et ignorer complètement la tradition, mais révisiter peut-être pour que ça parle un peu plus aussi à notre époque. Peut-être aussi cette sensibilité à la nature et cette fragilité, peut-être par le fait aussi qu'il vient de Hiroshima, il y a toute cette chose qui a été détruite et après enfin, reconstruite. Beaucoup de choses très inspirées par tout le rapport au temps aussi, à la nature, au temps. Mais il a eu cette difficile tâche, d'après lui, d'écrire un concerto hommage à Mozart, qu'il admire par-dessus tout. Et il ne savait pas comment faire pour faire un hommage ou quelque chose en rapport à Mozart.
C'est le concerto Lotus que vous avez créé.
C'est ça. Finalement, il a trouvé cette très belle idée de la fleur de lotus, qui est une fleur très représentative de la culture bouddhiste, très importante. Quand elle est fermée, elle a la forme d'une prière, et qui s'ouvre, qui a les racines dans la boue, qui traverse la surface de l'eau et qui monte son visage vers la lune et vers la beauté, vers quelque chose qui est loin. Disait que la chose qui est loin et vers laquelle il adore l'adoration, c'est Mozart, la culture, la musique occidentale et Mozart. Et donc, c'est la fleur qui s'incline devant Mozart. C'est une image très poétique qu'il a créée finalement à partir de ça. Donc finalement, il a quand même fini par créer son monde.
Il y a aussi à cette période-là, et ce qui explique sans doute ce regard qu'a pu avoir cette génération aussi de compositeurs japonais sur l'Occident, l'exposition universelle. On est dans les années 70, et l'exposition universelle au Japon fait venir aussi au Japon Xenakis, Stockhausen,
oui.
Et ça a une résonance importante.
Ah, complètement, oui. Ça a été le grand choc pour beaucoup de... Je sais que Hosokawa ou même Ichiro Nodaira aussi, ils étaient tous encore jeunes. Je pense qu'ils étaient 10 ans, comme ça. Ils sont allés jusqu'à Osaka. Et c'était un bouleversement de toute cette expression diverse, cette traitement d'électronique aussi qu'ils ne connaissaient pas. Oui, c'était un grand choc. L'autre grand choc, c'était la création de la Tour Angalila. Au Japon, une symphonie de Messiaen, qui avait beaucoup, beaucoup marqué, parce que la création japonaise était dirigée par Ozawa. Ça a fait un grand choc. Je pense qu'il y avait aussi un avant et un après.
Ichiro Nodaira, lui, il avait fait ses études au CNSM de Paris.
Absolument.
Avec Betsy Jolas, notamment.
Absolument, oui. Oui, oui.
Donc voilà typiquement l'exemple, en fait, de quelqu'un qui a été frappé dans les années 70 et qui a fait le voyage.
Voilà,
fait.
Absolument. Et dont j'ai aussi le plaisir de créer une œuvre pour... de piano, qui s'appelle Echo dans les bois, parce que Kodama, ça peut dire écho au Japon. Donc voilà, c'était écrit pour la valse Buné, comme ça faisait les échos dans les bois. Tout à fait, ça c'est très important dans l'histoire de la création au Japon.
Et vos parents sont retournés habiter au Japon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez d'une certaine façon à nouveau des racines véritablement japonaises avec des parents qui habiteraient le Japon
ou... Oui, ils sont mon père maintenant est à la retraite, ma mère aussi, donc ils sont au Japon, ils viennent deux fois par an en France. Et ça, c'est toujours un moment où ils se réjouissent parce que mon père... connaît Paris peut-être aussi bien que Ozawa, il connaît toutes les petites rues, tous les musées, toutes les expositions. Ma mère adore la cuisine française. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais au Japon pour jouer, je retrouve mes cousines, mes tantes. C'est toujours une grande réunion familiale.
Il y a véritablement une amitié entre France et Japon.
Oui, ça date même de l'époque de Debussy, où il avait pris la mer de estampe de Hokusai pour sa couverture de sa partition de la mer. Je pense qu'il y a une certaine sensibilité envers des choses peut-être raffinées, ou cet rapport à la nature aussi, à la poésie, aux choses poétiques. Takemitsu, il connaissait vraiment bien aussi, il est fasciné par la France. Messian qui va au Japon, qui est fasciné par le Japon. Et toujours maintenant, j'ai beaucoup d'amis français qui connaissent énormément la littérature japonaise. C'est d'ailleurs beaucoup traduit et bien traduit en français, toute la littérature, même pas juste Mishima, mais aussi des écrivains actuels. Oui. Et vice-versa, je veux dire, il y a beaucoup d'expositions là. Il y avait une exposition sur le photographe Doano qui était magnifique, sur la musique. Donc oui, il y a une fascination comme ça, mutuelle.
Et vous êtes une lectrice, une grande lectrice, vous qui aimez les mots, vous avez la chance d'être polyglotte et d'avoir une bibliothèque dans plusieurs langues. Est-ce que vous êtes une lectrice d'un point de vue aussi littéraire, de la poésie?
Oui, je lis beaucoup, je lis un peu différentes choses. Mais il y a des certains livres à laquelle je reviens. De Heine, je lis toujours un peu des prose, on dit oui. Il y a certains écrivains comme Dostoïevski que je lis tous les peut-être 4 ans, j'ai besoin de plonger dans ces images. Et aussi de Tolstoï, il y avait une époque où j'ai beaucoup, beaucoup lu la littérature russe. Littérature japonaise, quand je la lis en japonais, je ne comprends pas tout, parce que ma capacité de lire n'est pas suffisante. Donc c'est un peu dommage, mais je la lis quelquefois en français ou en allemand. Des choses récentes de Murakami, je les ai tous lues en allemand. Je lis plus que je regarde les films. Oui. Pour moi, la littérature est plus proche.
Vous qui avez envie, Momokodama, d'écrire, de mettre les mots les uns à côté des autres, d'organiser une pensée, est-ce que vous avez aussi envie de transmettre? Parce qu'il y a quelques jours encore, vous donniez des masterclass dans le oui. cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, mais vous n'êtes pas professeur à proprement parler. Est-ce que c'est un désir pour l'avenir aussi, l'enseignement, la transmission, de
oui,
façon plus fréquente?
De plus en plus à la transmission, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, je faisais ces quelques masterclass, il y avait quelquefois des pianistes qui venaient me jouer, donc j'écoutais, et c'est toujours un plaisir. Parce qu'évidemment, les masterclass, c'est un luxe, parce que le travail de tous les jours, c'était préparé avec leurs professeurs. Moi, je viens au dernier moment, quand tout est déjà préparé, je fais le travail, déjà un travail qui est déjà fait, alors on peut commencer à travailler sur les bases déjà très solides. Mais je trouve que quand même le processus est très intéressant parce que d'abord on se pose quand même beaucoup de questions, on se met dans la peau de l'étudiant. Finalement on fait un peu la même chose aussi, je veux dire, c'est juste qu'on a un tout petit peu plus, peut-être plus d'expérience parce qu'on est plus âgé. Mais la chose principale c'est que qu'est-ce qu'on fait? On est là devant la partition, on essaye de la comprendre, de l'interpréter. Et ce principe-là, ça change pas. Donc, je me vois moins comme un professeur, en fait. À chaque fois que je fais les masterclass, je sens un peu, voilà, dans la même attitude, mais en plus âgée. Les élèves me disent que ça leur éclaircit sur quelques points. Tant mieux, ça me rend très heureuse. Et moi, ça m'enrichit aussi beaucoup. Oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus dans le futur, maintenant que j'ai un peu plus d'espace aussi en moi. Je suis dans une génération, je pense, assez intéressante, parce que j'ai connu les anciens maîtres qui n'ont jamais connu de téléphone portable dans leur jeunesse, pas d'ordinateur, où le temps était différent aussi, qui a mis 24 heures à pouvoir aller au Japon. Et la jeune génération qui peuvent aller comme ça un jour au Japon, revenir, et où ils sont nés avec le téléphone portable, avec l'électronique, avec les choses immédiates aussi, où le temps va beaucoup plus vite. Donc, je suis un peu entre les deux générations. Et moi, j'ai reçu tellement dans ma vie de tous les artistes que j'ai pu rencontrer, de tous mes amis qui sont là. Donc, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut le faire pour en rendre un peu de ce qu'on a reçu? Donc, oui, ça, je pense qu'on est un peu dans cet âge-là aussi. Plus qu'à 20-30 ans, où on pensait juste à avancer, à... Probablement, j'étais encore plus égocentrique que maintenant, quand j'avais 30 ans, je ne sais pas, il y avait quelque chose... oui, je pense qu'on a un peu plus d'espace de voir aussi, peut-être, enfin moi en tout cas, de voir un peu l'entourage plus. Donc, je trouve que cette transition de transmettre d'une génération à l'autre, pour moi, très enrichissant, très, très passionnant.
Quand vous dites plus d'espace en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes plus apaisée?
Oui, je suis peut-être moins, pas vraiment relativisée, mais quand il y avait des choses, des murs, quand je n'arrivais pas à jouer comme je voulais, ou quand le concert était, ça s'est pas passé comme... Ça prenait des proportions vraiment immenses. Peut-être ça s'est un tout petit peu apaisé, même si ça reste toujours. Enfin, c'est toujours une responsabilité. Quelquefois, ça devient même plus difficile parce que je pense que maintenant, moi, je dois travailler plus qu'avant pour jouer quelque chose. Il y a peut-être une exigence qui est peut-être devenue aussi plus qu'avant. Mais en même temps, je me dis, voilà, ce soir, je vais prendre du temps. Je vais pas jouer. Je vais voir les amis ou je vais... passer du temps avec la famille, voilà, j'arrive à faire cette coupure plus. Et ça, je pense que finalement, ça crée plus d'espace, qui est finalement sûrement bénéfique aussi pour l'art.
Parce que sans doute aussi que c'est passion comme ça, quand on a une passion depuis tant d'années et une passion qui trouve un écho en plus chez les autres, d'une certaine façon, ça isole aussi un peu. C'est difficile aussi de faire sa vie personnelle, non?
Oui, ça c'est un équilibre à trouver, oui, je suis toujours en train de travailler là-dessus, peut-être un jour j'y arriverai, et, parce que de toute façon ça reste tellement un apprentissage de tous les jours, mais je veux dire tout, la vie, la musique, beaucoup de choses, donc voilà, je crois que je suis encore à mi-chemin et j'ai encore beaucoup de choses devant moi.
Thank you. Et c'est avec un extrait des Estampes de Claude Debussy que se termine cette série des grands entretiens avec la pianiste Momo Kodama. Réalisation Gilles Blanchard. Prise de son Frédéric Kérou. Mixage Emmanuel Morse-Duncan. Attaché de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.